J'ai une excellente question pour vous. Comment devons-nous interpréter le livre de l'Apocalypse? La parole de Dieu va nous donner une réponse des plus enrichissantes aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible.
Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647.
Bonjour, ici Caro. Mes amis, avant de commencer notre étude du livre de l'Apocalypse, j'aimerais me joindre à Régent pour vous dire qu'il vous sera plus facile de comprendre ce livre si vous avez déjà de la connaissance dans les autres livres de la Bible. C'est pourquoi je vous encourage à visiter notre site web, espoir.ca, le plus souvent possible, afin de recevoir l'enseignement des autres livres de cette parole merveilleuse de Dieu. Et là, vous trouverez toutes les émissions intitulées « À travers la Bible ». Et maintenant, voici les premières questions qu'on va poser au livre de l'Apocalypse. Pour qui le livre de l'Apocalypse contient-il de mauvaises nouvelles? Pour qui contient-il de bonnes nouvelles? Est-ce qu'on peut trouver de l'encouragement dans ce livre de la Bible? Le bien et le mal sont-ils de force égale? Qu'est-ce qui peut nous aider à bien comprendre le livre de l'Apocalypse? Est-ce qu'on a de quoi s'inquiéter dans le monde d'aujourd'hui? Quelle est la pensée des personnages qui ont une certaine notoriété au sujet du monde? Quels sont les systèmes majeurs d'interprétation du livre de l'Apocalypse? Restez avec nous. Le pasteur Régent Joly est sur le point de débuter un enseignement vraiment intéressant en réponse à chacune de nos questions. Mais premièrement, prions. Ô Seigneur, je me rappelle combien juste le nom Apocalypse me faisait peur autrefois avant que je te connaisse. Et maintenant, je vois ta bienveillance et ton amour à travers ce beau livre de ta parole. Alors touche nos cœurs aujourd'hui, fais-nous comprendre à quel point tu nous aimes à travers ta parole. On t'écoute, Seigneur. Amen. À toi, Régent.
Merci beaucoup, Caro. Chers amis, débutons notre introduction du livre de l'Apocalypse. Nous commençons aujourd'hui l'étude du dernier livre de la Bible, soit l'Apocalypse. Dans le langage de tous les jours, le mot « apocalypse » n'évoque généralement rien de trop réjouissant. On pense intuitivement à des catastrophes de fin du monde. Cette conception est en partie exacte. D'abord, parce que la majeure partie du livre parle effectivement de la fin du monde présent, tel que nous le connaissons aujourd'hui. Ensuite, pour certaines personnes, cela sera aussi un temps de catastrophe. Tout dépend du point de vue où l'on se place. Si vous n'entretenez pas de relation personnelle avec Jésus-Christ, vous êtes ennemi de Dieu. Dans un tel cas, l'Apocalypse ne contient que des mauvaises nouvelles pour vous. La Bible contient plusieurs livres contenant une littérature apocalyptique. Dans l'Ancien Testament, on trouve entre autres Daniel et surtout Zacharie. Dans ce dernier livre, le sort qui attend les ennemis de Dieu est décrit en termes très graphiques dans Zacharie chapitre 14, verset 12. En voici la lecture. « Voici la plaie dont l'Éternel frappera tous les peuples qui auront combattu contre Jérusalem. Leur chair tombera en pourriture tandis qu'ils seront sur leurs pieds. Leurs yeux tomberont en pourriture dans leurs orbites, et leur langue tombera en pourriture dans leur bouche. On ne souhaiterait pas cela à son pire ennemi, mais dans les derniers temps, les ennemis de Dieu connaîtront effectivement un sort peu enviable. » Mais le mot « apocalypse » contient un autre sens beaucoup plus positif. Ce mot vient du mot grec « apocalypsis », qui signifie « révélation ». De quelle révélation s'agit-il? Pour nos nouveaux auditeurs, rappelons que la Bible, dans son ensemble, est la révélation de la volonté de Dieu envers nous, les humains. Le Créateur de l'univers a conçu un merveilleux plan de rédemption pour l'humanité, et nous sommes tous appelés à y participer. L'Apocalypse est le dernier livre de la Bible, et comme il se doit, Dieu révèle à l'avance la conclusion de son plan magistral à ceux et celles qui font partie de son peuple. Tout est bien qui finit bien. En tant que chrétien, la lecture de l'Apocalypse me rappelle un des passe-temps préférés de ma jeunesse, la lecture des romans de détectives, de suspense et de mystère. Prenez par exemple les romans d'Agatha Christie. On y trouve beaucoup de plaisir à essayer de démasquer le coupable avant la fin du roman. Toutefois, je n'avais pas toujours le temps de lire tout le livre. Je me rendais souvent au moment où l'héroïne se trouve ligotée sur la voie ferrée alors qu'elle sent et entend sur les rails le grondement de la locomotive qui approche. Sa situation semble désespérée. Et juste au moment où on pense que le héros va certainement la secourir, l'action se déplace dans une vieille usine désaffectée. Il est lui aussi solidement attaché sur une chaise sur laquelle grésille la mèche d'un bâton de dynamite. Il est 1 heure du matin, et je ne peux assurément pas laisser les deux protagonistes de mon roman dans une position aussi fâcheuse. Mais puisque je commence à m'endormir, je dois me résoudre à sauter les quelques pages qui me séparent de la fin du livre. Je retrouve là une scène complètement différente. Le héros et l'héroïne sont assis sur le balcon d'une douillette maison. Ils sont maintenant mariés et leur bébé joue dans le jardin. Quelle scène réconfortante et charmante! J'avais parfois l'idée de retourner à l'endroit où les deux protagonistes étaient en si mauvaise posture pour leur dire « Ne vous en faites pas, tout va s'arranger, vous vous sortirez tous deux de votre mauvaise posture. » Je ne connais pas tous les détails, mais je sais que vous y arriverez. Une source d'encouragement. L'intention du livre de l'Apocalypse est un peu la même. Elle nous annonce à l'avance comment se terminera l'histoire du monde dans lequel nous vivons. Soyons francs. Lorsque nous regardons avec réalisme la situation du monde présent, la conjoncture n'est pas des plus réjouissantes. Lorsqu'on me parle de changement climatique, je me sens un peu comme l'héroïne qui entend le grondement du train se rapprocher. Beaucoup de gens se demandent comment les choses vont tourner. Et les sondages révèlent que la majorité doute que les choses s'arrangeront à court ou moyen terme. Le pessimisme règne. Il est alors temps de se tourner vers le livre de l'Apocalypse. Il nous rappelle que les choses finiront par s'arranger, puisque la conclusion ne dépend heureusement pas d'un pouvoir humain, mais de la toute-puissance de Dieu. Vu sous un certain angle, la Bible est un livre de guerre. Il s'agit du conflit opposant les forces du bien sous le contrôle de Dieu, aux forces du mal sous le contrôle de Satan. Le bien est éternel, car Dieu est essentiellement bon. Le mal a eu un commencement, décrit dans le premier livre de la Bible, dans le livre de la Genèse, et il aura une fin, décrite dans le dernier livre de la Bible, l'Apocalypse. Le bien et le mal ne sont donc pas deux forces égales, comme on le pense parfois. Et même si, aujourd'hui, les forces du mal semblent avoir le dessus, Dieu reprendra éventuellement le contrôle de la situation. En fait, il n'en a jamais perdu le contrôle. Dieu rapproche le monde du temps où il installera son Fils, le Seigneur Jésus-Christ, sur le trône du monde ici-bas. La situation présente n'a rien pour nous réjouir. C'est un fait. Je crois qu'il est impossible de considérer aujourd'hui la situation globale sous un angle optimiste. Le monde est dans une situation désespérée. Avouons-le. Toutefois, le livre de l'Apocalypse peut préserver les enfants de Dieu du désespoir et même du pessimisme. Nous pouvons donc nous dire les uns aux autres, « Ne vous en faites pas. Dieu finira par arranger les choses. C'est pourquoi il est de loin préférable de faire partie du peuple de Dieu qui est présentement l'Église. Comme le disait Calvin, « J'aime mieux perdre tout de suite et gagner plus tard que gagner maintenant et perdre plus tard. » Et même si maintenant l'Église semble perdre son combat contre le mal, elle gagnera certainement plus tard, car la victoire est déjà assurée en Jésus-Christ. Comment puis-je en être aussi sûr? Parce que je connais la Bible, et particulièrement le livre de l'Apocalypse. Et mon vœu le plus cher est que vous le connaissiez aussi bien que moi quand cette série d'émissions prendra fin. Je vous encourage donc fortement à rester avec nous au cours des prochaines semaines. le dénouement d'un plan éternel. Je dois cependant vous confesser une certaine appréhension. Voyez-vous, l'Apocalypse est le 66e et dernier livre de la Bible. Il serait donc préférable que vous ayez au moins une certaine connaissance des 65 premiers livres. C'est pourquoi cette série d'émissions a commencé avec le premier livre de la Bible il y a plusieurs années, et qu'elle se terminera bientôt avec le dernier. Car, pour bien comprendre le sens de l'Apocalypse, une connaissance minimale des livres précédents s'impose afin d'avoir bien en tête le message des Écritures et les faits historiques qui lui sont reliés. Je suis un peu inquiet pour une deuxième raison. Alors que nous débutons l'étude de ce livre, nous vivons présentement dans un temps d'obscurité, de difficulté et même de désespoir pour certains. Nous sommes présentement témoins de l'échec de nos dirigeants à tous les points de vue. Une corruption généralisée a atteint les différents paliers de gouvernement, la science, l'éducation, les industries de divertissement et même l'Église. Puisque nos éducateurs se débattent au milieu d'interminables réformes de l'enseignement, il leur est impossible de donner une éducation ordonnée et cohérente à nos enfants. Comment ces derniers pourront-ils devenir des chefs dans ces conditions? Aucun secteur de la société ne semble avoir des solutions viables pour les problèmes qui nous confrontent. Chacun se contente de tirer la couverture de son côté afin d'obtenir pour lui-même davantage de pouvoir et d'argent. Nous manquons de véritables chefs capables de proposer une vision qui fouetterait les énergies des différents niveaux de la communauté. Nous vivons une époque difficile et l'Église passe présentement un des plus mauvais moments de son histoire. Un diagnostic peu réjouissant. Des gens instruits ont dressé un bilan intéressant du monde contemporain. J. Vernon McGee, le prédicateur dont nous traduisons et adaptons les textes, nous propose plusieurs citations intéressantes. Pour cette raison, la plupart d'entre eux viennent des États-Unis. Mais ces déclarations regroupent d'autres témoignages semblables dans les différentes cultures occidentales. Notez toutefois qu'ils ne sont ni hommes d'Église, ni théologiens. Il s'agit simplement de personnages ayant acquis une certaine notoriété dans leurs domaines respectifs. Le docteur Lurie, de l'Université de Chicago, a dit une série publiée dans le magazine Collier's. « Je suis effrayé et je veux vous effrayer. » Le docteur John Rare Mott est revenu d'un voyage autour du monde et a fait la déclaration suivante. « Nous vivons présentement dans l'époque la plus dangereuse que le monde n'ait jamais connue. » Il nous a ensuite demandé dans quelle direction nous pensions que le monde se dirigeait. Il a finalement déclaré « Quand je pense à la tragédie humaine telle que je l'ai vue et sentie, et aux idéaux chrétiens sacrifiés comme ils le sont, il m'arrive de penser que Dieu se prépare pour une action directe d'une envergure inégalée. » Robert M. Hutchins, président de l'Université de Chicago, a choqué plusieurs personnes il y a quelques années en disant « Le fait d'investir des efforts pour éduquer des enfants entre 6 et 21 ans semble futile. » Il est possible que le monde ne dure pas assez longtemps pour que cela en vaille la peine. Monsieur Loose, propriétaire de plusieurs revues à grand tirage comme Vie, Time et Fortune, s'est adressé à un groupe de missionnaires qui retournaient sur leur champ d'action après la Deuxième Guerre mondiale. Il a déclaré que, lorsqu'il était un jeune garçon, fils d'un missionnaire en Chine, son père et lui discutaient souvent du retour prémillénariste de Jésus-Christ. Il pensait que les missionnaires qui adoptaient ce point de vue étaient un peu fanatiques dans leur position. Mais avec le temps, il se demandait s'il n'avait pas un peu raison. Un historien, Charles Beard, disait « À travers le monde, des intellectuels et des chercheurs scrutent l'horizon futur dans un effort pour évaluer les valeurs de notre civilisation, tout en spéculant sur notre destinée. » Dr. Raymond B. Fosdick, président de la Fondation Rockefeller, a dit « Plusieurs oreilles peuvent entendre le son du châtiment à venir. Il nous reste peu de temps. » Le romancier H. G. Wells a déclaré avant sa mort que le monde était au bout de sa corde. la fin de ce que nous appelons la vie se rapprochait rapidement. Le docteur Nicholas Murray Butler, ancien président de l'Université de Columbia, a dit « La fin ne peut pas être dans un avenir trop lointain. » Il est particulièrement malheureux de constater que l'Église contemporaine ne semble proposer aucune solution pour les problèmes qui nous affligent. De nombreux scandales ont éclaboussé les différentes dénominations chrétiennes, et l'Église n'influence plus la culture contemporaine. Depuis plusieurs décennies, des hommes de qualité dans tous les domaines ont tiré la sonnette d'alarme. Ils prévoient un temps de grande crise, et les choses ne semblent guère s'améliorer avec le temps. En conséquence, de plus en plus de gens s'intéressent au livre de l'Apocalypse. 4 systèmes d'interprétation. Même si plusieurs bons commentateurs divergent d'opinion sur les détails du livre de l'Apocalypse, on trouve dans l'ensemble 4 systèmes majeurs d'interprétation de ce livre. Certains, comme Brodus, en dénombrent autant que 7, tandis que d'autres, comme Triggles, en énumèrent seulement 3. Mais pour le moment, tenons-nous-en à 4. Le premier est l'interprétation prétériste. Selon elle, toutes les prophéties contenues dans le livre de l'Apocalypse se sont accomplies dans le passé. Elle rapporte des circonstances propres au premier temps de l'Église sous le règne des empereurs romains Néron ou Domitien. Renan et la plupart des théologiens allemands ainsi qu'Eliot ont soutenu ce point de vue. Le but de l'Apocalypse était de réconforter le peuple de Dieu qui souffrait alors de persécutions. Le livre a été écrit sous forme de symboles que les chrétiens de cette période pouvaient comprendre. On peut répondre à cela que le livre de l'Apocalypse a effectivement été écrit pour le réconfort du peuple de Dieu, non seulement au premier temps de l'Église, mais à travers les siècles. Toutefois, le fait de soutenir la thèse prétériste équivaut à éjecter le livre de l'Apocalypse hors de la Bible, car il n'a plus aucune signification pour le temps présent. On trouve aujourd'hui peu de défenseurs de cette thèse qui semble avoir fait son temps. Le deuxième système d'interprétation est historique. Cette interprétation soutient que l'accomplissement des prophéties de l'Apocalypse se renouvelle continuellement dans l'histoire de l'Église à partir de ses débuts jusqu'à aujourd'hui. Je crois que cela est vrai jusqu'à un certain point, en notant que les 7 églises mentionnées dans les premiers chapitres sont concernées. Mais après cela, le livre de l'Apocalypse est essentiellement prophétique. On pourrait appeler le troisième système historico-spiritualiste. Il s'agit d'un raffinement de la théorie historique. Elle a d'abord été proposée par Sir William Ramsay. Cette théorie déclare que les 2 bêtes de l'Apocalypse sont les 2 aspects de Rome, impérial et provincial. Il avance en outre que le but du livre est d'encourager les chrétiens. Selon cette théorie, les prophéties se sont accomplies pour la plupart et le seul intérêt de ce livre pour l'Église d'aujourd'hui se trouve dans quelques leçons spirituelles. La théorie connue sous le nom d'amillénariste a dans son ensemble adopté ce point de vue. Elle dissipe et annule le but du livre. Les faits rapportés dans l'Apocalypse s'évaporent à l'air libre avec la simple formule « Oh, vous savez, ce sont seulement des symboles ». Mais les tenants de cette théorie ne semblent jamais en mesure de nous dire exactement à quoi ces symboles font référence. Et quand ils se risquent à le faire, ils ne sont jamais d'accord entre eux. Nous assistons donc à toutes sortes d'interprétations curieuses. Un interprète verra Luther et la Réforme dans un symbole, pendant qu'une autre y verra l'invention de la presse à imprimer. Je suis d'avis que ce type d'interprétation menace d'annuler le but du livre de l'Apocalypse. Le quatrième et dernier système d'interprétation de l'Apocalypse est appelé futuriste. Ce point de vue est accepté par tous les prémillénaristes. J'aimerais vous le présenter car il représente selon moi le meilleur des 4. Il considère le livre de l'Apocalypse d'abord et avant tout comme un livre prophétique. La plupart des prémillénaristes suivent les grandes lignes d'une interprétation se conformant au livre de l'Apocalypse. Elle commence avec la révélation du Christ, le Christ glorifié, Ensuite, l'Église paraît devant nous et l'histoire de l'Église nous est donnée. À la fin du chapitre 3, l'Église est enlevée dans les cieux. À ce moment, nous ne voyons plus l'Église comme telle, mais comme l'épouse qui redescendra sur terre avec l'époux, Jésus-Christ, quand ce dernier reviendra établir son royaume. Il s'agit de cette période de 1000 ans appelée le millénium. Pendant ce temps, le cœur du peuple de Dieu sera éprouvé. À la fin de cette période, Satan sera libéré pour un court temps. La rébellion finale des ennemis de Dieu sera annihilée et l'éternité commencera. Ce point de vue du livre de l'Apocalypse est généralement accepté. Nous avons donc 4 points de vue différents sur l'interprétation de l'ensemble du livre de l'Apocalypse. Les revoici. Prétériste, historique, historico-spirituel et futuriste. Parallèlement à cela, nous avons 3 points de vue différents sur un des éléments du livre de l'Apocalypse, à savoir le millénium. Nous avons déjà parlé des amillénaristes et des prémillénaristes. Le troisième est le postmillénarisme. Cette interprétation croyait que le monde s'améliorerait de plus en plus et que l'Église parviendrait à convertir le monde entier et que Jésus-Christ reviendrait sur terre régner sur un véritable paradis. Ce point de vue était bien sûr influencé par l'humanisme de la fin du 19e et du début du 20e siècle. Depuis ce temps, 2 guerres mondiales, une crise économique et différents autres moments critiques ont mis à mal cette vision du monde un peu trop optimiste. Les postmillénaristes sont en régression aujourd'hui. La plupart d'entre eux sont devenus des amillénaristes. Ces derniers croient qu'il n'y aura pas de millénium quand Jésus-Christ reviendra. Dieu, le roi du monde. J'ai commencé l'émission en disant que le message de l'Apocalypse pouvait varier selon le point de vue. Pour une personne vivant dans le mépris et la rébellion envers Dieu, le message de l'Apocalypse n'a rien pour réjouir. En fait, le message de la Bible, dans son ensemble, n'a rien pour réjouir les méchants. Pour les chrétiens, même si les interprétations divergent, le message de l'Apocalypse reste positif. Car en ayant une relation personnelle avec Jésus-Christ, nous obtenons une perspective privilégiée sur le plan de Dieu concernant l'humanité. Car au-delà des circonstances changeantes, Dieu reste le même. Et son Fils, le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu éternel fait homme, partage son éternité, comme il est écrit dans Apocalypse, chapitre 22, verset 13. « Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. » Le commencement et la fin. Dans la révélation éternelle de Dieu, consignée dans la Bible, et plus particulièrement dans le livre de l'Apocalypse, le chrétien perd ses repères familiers ancrés dans le temps et l'espace. Il peut voir au-delà des circonstances, parfois décourageantes de la vie, la main de Dieu qui maintient un contrôle parfait sur les destinées humaines. De plus, Dieu veille particulièrement sur ceux et celles qui sont devenus ses enfants par adoption, en recevant, personnellement, le Seigneur Jésus-Christ comme leur Sauveur. Par cette relation privilégiée, nous pouvons voir les principes immuables par lesquels Dieu a dirigé l'histoire des hommes et par lesquels il continuera de le diriger jusqu'au retour de son Fils, Jésus-Christ. L'auteur de l'Apocalypse, l'apôtre Jean, se plaît à nous démontrer que les puissants de ce monde ne font rien d'autre qu'obéir au plan de Dieu pour l'humanité. On se rappelle que les derniers livres de l'Ancien Testament nous démontraient comment des personnages illustres comme Cyrus et Darius, souverains de l'Empire des Mèdes et des Perses, et Alexandre le Grand, souverain de l'Empire grec, se conformaient aux ordres divins. L'apôtre Jean reprend ce thème en soulignant la souveraineté de Dieu sur les affaires humaines. Cette souveraineté de Dieu était une source d'encouragement pour les chrétiens au temps de l'apôtre Jean. Chers amis, préparons-nous pour la prochaine émission en lisant l'Apocalypse. À vous d'en faire une lecture impressionnante et intelligente.
Merci beaucoup, Régent. Mes amis, quelle belle introduction au livre de l'Apocalypse et quel encouragement pour nous qui sommes des enfants de Dieu nés de nouveau. Quand on voit des films qui ont rapport à ce livre de la Bible, ce sont généralement des longs-métrages terrifiants, et avec raison. comme Réjean nous l'a si bien décrit aujourd'hui, des temps de catastrophe qui vont venir sur cette terre, des temps bien pires que ceux qu'on a vus à date. Pour ceux qui n'ont pas de relation personnelle avec Dieu, ce sera réellement terrible. Mais pour les croyants, c'est réellement encourageant de voir que Dieu rapproche le monde du temps où il installera son Fils Jésus sur le trône du monde. Nous aurons peut-être à souffrir, mais nous savons que l'Église du Seigneur gagnera le grand combat, puisque la victoire a déjà été remportée par Jésus à la croix. Gloire à Dieu! Mes amis, c'est merveilleux de considérer tous les événements prédits dans le livre de l'Apocalypse quand on a Dieu pour Père. Quand on a Jésus comme Sauveur, quand l'Esprit-Saint habite en nous et qu'on a l'assurance de passer l'éternité dans la présence de Dieu, après que Dieu aura accompli sa volonté suprême sur cette terre. Pour ma part, peu importe ce qui va arriver, dans les temps à venir ici-bas, j'ai l'assurance que Dieu contrôle toutes les destinées humaines, comme Réjean nous l'a si bien enseigné un peu plus tôt. Je sais qu'il veille particulièrement sur moi et sur tous ceux qui ont accepté Jésus comme Sauveur. Ça m'a fait sourire quand Réjean a mentionné que les puissants de ce monde ne font rien d'autre qu'obéir au plan de Dieu pour l'humanité. Je ne pense pas qu'il le sache, mais il en est ainsi et ça me rassure de savoir que c'est réellement Dieu qui est au contrôle. Quel Dieu merveilleux! Quand je pense que tous les humains ont accès à lui, qu'ils n'ont qu'à croire au Seigneur Jésus pour être sauvés, mais que tous ne croient pas en lui. Ils préfèrent placer leur confiance dans toutes sortes de théories, d'organismes, de pensées, de rituels. Je suis réellement reconnaissante envers Dieu de ce qu'un jour, il s'est révélé à moi. Il m'a fait réaliser que j'avais la foi en Jésus seul, pour le pardon de mes péchés et le don gratuit de la vie éternelle. Et pourtant, avant ça, j'avais fouillé dans toutes sortes de livres, de pensées positives et tout ça, puis je trouvais rien. Mais quand j'ai découvert le Seigneur et sa parole, quelle découverte! Quel beau plan de Dieu pour moi et pour toi! Alors toi, justement, mon ami, en est-il ainsi pour toi? Crois-tu en Jésus? Crois-tu que c'est pour toi personnellement qu'il a donné sa vie sur la croix, qu'il a tant souffert, qu'il a payé la dette de ton péché en entier avant de mourir? Il a dit « Tout est accompli ». Alors, tu n'es pas loin de la vie éternelle si tu crois tout ça. Il te reste à te repentir. La repentance, c'est un changement de cœur à l'égard du péché qui fait qu'on veut s'en détourner. Tourne tes regards, fais un 180 degrés, tourne tes regards vers Jésus et demande-lui de te sauver. Ses bras sont grands ouverts devant toi, maintenant. Alors demande-lui cette vie éternelle, ce beau cadeau gratuit, et tu vas être certain de passer l'éternité avec lui. Réjean, je pense que les gens comprennent pas exactement c'est quoi un déjeuner de l'espoir. Pourrais-tu l'expliquer?
Avec joie, Caro. Les gens sont invités à venir participer à un déjeuner de l'espoir qui se déroule dans un restaurant. Mmh. Un endroit où les gens sont habitués à venir. Qui n'a pas pris un repas dans un restaurant? C'est un lieu public. Mmh. Alors, les gens viennent, ils y assistent et ils peuvent manger gratuitement.
Wow!
Gratuitement. En plus d'entendre un merveilleux témoignage, c'est ça qui fait que le déjeuner est merveilleux, c'est qu'il y a un témoignage d'une personne. Ça pourrait être toi, Caro, ou moi, ou une toute autre personne qui a vécu une expérience personnelle avec Dieu. Comment est-ce que Dieu a transformé, a changé, je pourrais même dire bouleversé sa vie?
Eh oui! Dieu a vraiment bouleversé la mienne et j'aime ça raconter ça. J'aime ça aussi pouvoir chanter mes anciens succès. C'est le fun de voir les gens qui rient d'entendre toutes ces anciennes chansons-là. Et finalement, je leur dis ce que Dieu a fait pour moi. Puis c'est merveilleux. C'est bon dans mon cœur de l'annoncer aux gens combien Dieu les aime. Et ça se fait à la grandeur du Québec.
Comment peut-on savoir s'il y en a un près de chez nous?
Eh bien, vous pouvez nous rejoindre par téléphone.
1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647 ou via courriel
à www.radioespoir.ca ou à notre adresse postale.
Radio Espoir, casier postal 34-143 Charlebourg, province de Québec, G1G-6P2. Chers amis, au revoir.
Bye-bye.
Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.